Natalia Sertour, vous êtes dirigeante de Tutalp. Bonjour.
Bonjour.
Un rappel sur Tutalp et quel est l'objet de votre entreprise?
Alors, Tutalp, c'est une plateforme logistique en ligne afin de résoudre les difficultés de chacun par la création d'un réseau solidaire pour les Hauts-Alpins et les résidents des Alpes de Haute-Provence. Donc, Tutalp, pourquoi Tutalp? Donc, tut est l'onomatopée du klaxon, tut-tut, et c'est aussi pour représenter les initiales de TUT, trouve un transporteur ou trouve un transport. Et Alpes, c'est pour définir le secteur où je propose mes services, à savoir le 04 et le 05. Par contre, attention, mes clients sont dans le 04 et le 05, mais les transports ne sont pas limités dans ces deux départements-là. On peut transporter aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, du coup, mes services avec tutalp.fr, c'est que c'est un outil, un logiciel en ligne, donc de mise en relation entre particuliers, professionnels et transporteurs locaux, pour allier l'offre et la demande. Et ensuite, j'ai un deuxième volet, donc c'est Tutalp, soit moi-même, qui propose des services pour les entreprises comme du conseil, du coaching, des études de marché, des audits, un accompagnement spécialisé pour tout à chacun ayant besoin d'un référent transport et ou logistique afin de réduire les coûts de transport. C'est en gros des immersions en entreprise. Donc les objectifs de Tutalp, c'est de favoriser les transporteurs locaux, donc du 04 et du 05, de donner un accès au transport simplifié à toutes les entreprises, les artisans, les auto-entrepreneurs, les PME, mais aussi les collectivités et les particuliers. C'est de promouvoir un outil efficace imaginé par mon webmaster et moi-même afin de regrouper les offres et les demandes pour optimiser les chargements. Et enfin, Tutalp, ça sert à réduire les poids lourds sur nos routes alpines afin de diminuer les différentes pollutions, CO2, sonores, visuelles, mais aussi les dégradations des routes.
Et en France, ce type d'entreprise est-elle en développement?
Alors, tutalp.fr, ça vient d'une idée générale revue à l'échelle départementale. En fait, il existe deux grandes bourses de fret nationales en France, mais ces dernières sont uniquement accessibles par les grandes entreprises vu leur coût élevé d'abonnement qui est d'environ 50 euros par mois. Donc, ces outils sont utilisés plutôt par des plateformes logistiques qui gèrent de grandes marques comme Carrefour, Decathlon ou Kiabi, ou pour des entreprises ayant un service transport en interne. Donc Tutalp se veut plus accessible en offrant ses services à tous. Donc pour répondre à la question, oui, le gouvernement pousse ce genre d'initiative et développe des outils pour aller vers une transition écologique avec les transporteurs. Mais malheureusement, aucune des innovations économiques ne peut se faire seule face aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés. C'est seulement en créant des synergies entre les différentes approches qui puisent dans l'intelligence des écosystèmes naturels, comme planter des arbres, ou le genre humain avec des projets innovants et la puissance des technologies efficientes, donc dans mon cas l'algorithme tutalp.fr, que nous pourrons espérer aboutir à une véritable durabilité. Alors, par exemple, un exemple de développement en France créé par le gouvernement. Donc en 2013, le gouvernement a mis en place une information relative à la quantité de dioxyde de carbone, donc le CO2, émise à l'occasion d'une prestation de transport. Donc en fait, les transporteurs, ils ont l'obligation de vous faire un diagnostic CO2 pour toute marchandise ayant un point de chargement ou de livraison sur le territoire national. Donc du coup, quand vous achetez quoi que ce soit, normalement le transporteur a dû transmettre cette information de combien de CO2 on a émis pour transporter votre marchandise. Donc l'information CO2 répond à un besoin de sensibilisation et de droit à l'information environnementale des citoyens. Mais si cette information constitue un outil important de la mise en œuvre des démarches de progrès environnemental chez les prestataires de transport, elle ne constitue cependant pas le seul élément à prendre en compte. En effet, la réalisation de bilans d'émissions de gaz à effet de serre sur l'intégralité du périmètre d'activité, et notamment l'activité logistique, l'adhésion à des programmes ou des chartes environnementales, comme par exemple la charte Objectif CO2, où les transporteurs s'engagent pour le transport routier de marchandises et ou de voyageurs. Il y a aussi des adhésions à des programmes internationaux, voire la mise en œuvre d'un processus de certification comme ISO 14001 sur les activités transport et logistique ou toute autre initiative sur d'autres secteurs de l'environnement comme la pollution, le bruit. Tout ceci constitue des actions permettant d'aller plus loin dans l'engagement environnemental des professions du transport. Signalons d'ailleurs qu'il existe des synergies évidentes entre les actions à mener. La collecte d'informations, la segmentation d'activités, la production d'indicateurs pour mettre en place l'information CO2 et mener un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres démarches environnementales.
Et quelle estimation des diminutions de rejet de CO2 serait possible dans le département?
Alors du coup, le principal gaz à effet de serre dans le secteur des transports, c'est le dioxyde de carbone, donc appelé CO2, qui est émis lors des phases de production et de fonctionnement pour les carburants. Donc je vous fais un petit rappel sur les gaz à effet de serre. Donc ce sont des constituants gazeux de l'atmosphère qui absorbent et renvoient certains rayonnements émis sur la Terre, sur la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. Donc l'augmentation exagérée de ces gaz en raison des activités humaines est un des éléments responsables du réchauffement climatique. Les principaux gaz dits à effet de serre, qu'on appelle GES pour gaz à effet de serre, ne sont pas que le CO2, il y a aussi le méthane, le protoxyde d'azote, l'hexafluorure de soufre, l'hydrochlorofluocarbone et le perfluocarbure. Donc des mots bien compliqués, il n'y a pas que le CO2. Donc moi je vais rester sur le sujet du CO2 pour le routier. Donc du coup pour le transport routier de marchandises, cela représente 7% des émissions totales de CO2 en France, soit 3 fois moins que l'industrie. Et en plus, pour rappel, le transport routier de marchandises assume 99% de l'acheminement des marchandises et donc du service quotidien qu'il rend à la collectivité, donc à nous tous. Malheureusement, on a besoin des camions. Donc, par exemple, la consommation de 20 litres de gasoil génère 61,4 kg de CO2, compte tenu du facteur d'émission de ce carburant qui est de 3,07 kg de CO2 par litre. Pour être complète et comparable entre les différentes sources d'énergie, cette valorisation des émissions doit tenir compte des émissions générées en amont pour leur production. Dans le cas des carburants, cela correspond à intégrer les opérations d'extraction du produit brut, donc le pétrole, du raffinage de ce dernier et du transport du carburant, et pas seulement de la combustion en elle-même. C'est la raison pour laquelle le présent dispositif d'information du CO2 des prestations de transport prend en compte un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase en amont. Par exemple, le chiffre que je vous ai donné juste avant, c'est les facteurs d'émission pour le kérosène sont de 0,58 kg de CO2 par litre pour la phase amont et 2,49 kg de CO2 par litre pour la phase de fonctionnement, soit 0,58 plus 2,49, d'où les 3,07 kg de CO2 par litre. Donc je vous laisse imaginer le calcul pour approvisionner en carburant toutes les entreprises, plus les entreprises de transport, plus les stations-service de notre département, avant même de parler de l'émission de CO2 par les camions transportant ensuite des marchandises de toutes sortes. Donc, pour parler d'une autre idée du gouvernement, donc c'est les classes euro des véhicules et rejets de CO2. Vous avez sûrement entendu parler de ces faux amis dans les grandes villes, par exemple, où on redemande des vignettes pour les véhicules polluants. Donc les normes européennes d'émission, dites normes euro, appliquées aux véhicules à moteur thermique, ont pour vocation de fixer des limitations en matière de rejets polluants et de particules. Ceux-ci sont les suivants, comme le monoxyde de carbone, l'hydrocarbure imbrûlé, l'hydrocarbure non méthanique, les oxydes d'azote. Mais l'appartenance d'un véhicule à une classe euro ne permet donc pas de déterminer la quantité de CO2 émise lors d'une prestation de transport. C'est la consommation de carburant de ce véhicule au cours de son utilisation qui servira de base de calcul. Bon, il n'en reste pas moins que les véhicules récents de classe euro bénéficient souvent de technologies leur permettant d'être moins consommateurs de carburant que ceux des classes précédentes. La modernisation de la flotte de véhicules constitue une action fondamentale dans la démarche d'un transporteur pour limiter l'impact de son activité sur l'environnement. Donc, c'est pour ça que sur les camions, vous voyez des vignettes où il y a écrit euro 4, euro 5, euro 6. Donc ça, plus l'euro est évolué, donc par exemple euro 6 ou euro 7, plus le véhicule est moderne. Donc toutes les idées innovantes comme Tutalp est donc forcément en phase avec une diminution du rejet de CO2 dans le département à condition que chacun joue un rôle dans cette proposition que j'apporte, qui est polluons moins en chargeant mieux. Cependant, Tutalp, c'est un combat mené avec et pour les transporteurs du 04 et 05, car il s'agit d'envisager de nouvelles possibilités de transport respectueuses des ressources naturelles régionales et plus précisément respectueuses des zones montagneuses, très sensibles au réchauffement climatique, induit entre autres par la multiplication des poids lourds transportant des marchandises à travers les Alpes, mais pas seulement. Selon moi, le sujet le plus important pour une diminution du rejet de CO2 au niveau du département reste le transit des poids lourds étrangers passant par le col du Mont-Genèvre. Un arrêté préfectoral réglemente pourtant la régulation du trafic, mais je laisse le soin aux autorités compétentes de répondre à ce fléau qui s'accentue d'année en année avec plus de 100 camions qui passent quotidiennement par ce col, donc en amont et en aval sur nos routes alpines. Et depuis la catastrophe du viaduc de Gênes en août 2018, l'affluence est en nette augmentation. Pour rappel, cet arrêté du col du Mont-Genèvre notifie que seuls les véhicules de moins de 26 tonnes ayant pour objectif une desserte locale sont autorisés au passage de ce col. Soit pour faire un raccourci simpliste, ce serait uniquement les transporteurs ayant un siège dans le 04 ou le 05 ou dans le canton de Bourdoisan et les communes des provinces de Turin et de Cuneo qui pourraient circuler par ce col. Donc je vous lis un petit passage de la convention. Donc la convention sur la protection des Alpes est une convention cadre visant la sauvegarde de l'écosystème naturel ainsi que la promotion du développement durable des Alpes en protégeant les intérêts économiques et culturels des populations qui y habitent et des pays adhérents. La convention est issue de la considération qu'une exploitation croissante de la part de l'homme peut constituer une menace de plus en plus grande pour le territoire alpin et ses fonctions écologiques, et que seule l'harmonisation des intérêts économiques avec les exigences écologiques peut éviter ces dégâts. Donc la Convention alpine a été ratifiée par les pays alpins, donc l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Slovénie et la Suisse, ainsi que l'Union européenne. Ça a été signé en novembre 91 et ça a été entré en vigueur en 95. Donc c'est une convention qui date un peu et qui n'est pas forcément respectée. Donc une fois rappelé tout ceci, donc cette analyse montre que ces modèles du changement couplent la rentabilité économique avec la restauration des écosystèmes et la résilience sociale. Donc je vais vous parler de l'ingénieure agronome Isabelle Delannoy, qui appelle ceci l'économie symbiotique, qui en a fait un livre d'ailleurs, qui est sorti en 2017. Donc pour ceux qui pensent que le mot symbiotique est compliqué, symbiotique, ça vient de la botanique, c'est un dérivé de symbiose, donc du grec syn, qui veut dire ensemble, et bios, qui veut dire vie, donc c'est un joli mot quand même. Elle est pour un développement durable où l'homme ne fait pas moins pire, mais bien. Donc c'est cette dame-là, Isabelle Delannoy. Et donc elle veut une nouvelle voie, une voie concrète qui a déjà ses références et ses acteurs qui y travaillent pour. Et le but étant d'accélérer la transition vers une économie régénératrice qui réconcilie une activité humaine intense, des écosystèmes naturels florissants et la prospérité économique en mettant en synergie les solutions durables dans tous les domaines. Donc, pour rappel, Tutalp a signé la charte d'engagement du contrat de transition écologique et solidaire le 25 avril 2019 avec le PETR du Grand Briançonnais en tant que partenaire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette dame ingénieure agronome Isabelle Delannoy, où il faut vraiment accélérer la transition avec des entreprises en développement et vers la transition écologique et solidaire. Donc pour conclure, donc je pense que réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite, car seul on ira loin, mais ensemble on est plus fort.
Merci beaucoup Natalia, et comment vous contacter et retrouver vos informations?
Donc vous pouvez me contacter directement sur mon site internet tutalp.fr. Donc vous avez toutes mes coordonnées dans l'onglet contact. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook ou sur Instagram, sous le même nom, tutalp.fr.
Merci beaucoup.
Merci.